Amis du RH, bonjour. Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Le Barbu en question, c'est moi, Nico. Je travaille dans le RH depuis maintenant plus de 10 ans. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain? Préparez vos AirPods, c'est parti! Aujourd'hui, on va parler de la place du RH dans la société. On a très souvent l'habitude de parler de sujets précis, de sujets particuliers comme l'expérience candidat, comme la GE2P, comme le Strategic Workforce Planning, comme la marque employeur, mais on parle peu et on donne peu la parole au RH de comment ils se sentent aujourd'hui, comment ils voient leur position aujourd'hui, comment ils voient leur métier dans la société et dans l'évolution du monde du travail. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Benoît Frère. Salut Benoît, comment ça va ?
Bonjour, merci de m'accueillir. Ça va très bien.
Je suis trop content. Depuis le temps où je voulais qu'on fasse un truc ensemble, je suis vraiment
Exactement. Trop
content.
Depuis le temps qu'on en parle, ça fait plaisir.
Moi, ça me fait super plaisir. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, parce qu'il y en a encore quelques-uns qui ne te connaissent pas dans la sphère, est-ce que tu peux te présenter et nous donner un petit peu ton parcours pour que les gens te connaissent et te découvrent?
Écoutez, bien sûr, donc je suis Benoît Frère, je suis dans les fonctions RH depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai commencé comme beaucoup de RH dans le recrutement, puis après j'ai voulu vraiment basculer rapidement RH en entreprise, et puis j'ai évolué par opportunité professionnelle en tant qu'assistant RH, puis chargé RH, chargé de développement RH, et puis RRH sur les 4-5 dernières années. Donc voilà.
Et là, tu l'as dit à juste titre, et tu vois, c'est un truc qui est particulier et c'est bien que tu fasses mention, c'est que tu as commencé par le recrutement. Et comme c'est un sujet qui est particulier, le recrutement, c'est vraiment un sujet qui est un sujet en tension aujourd'hui, on a trop souvent tendance, je trouve, dans les interventions à parler du recrutement et des problématiques de recrutement, mais souvent, les problématiques de recrutement rejaillissent en fait d'une problématique RH plus globale. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en discute aujourd'hui et que je suis très content de t'avoir avec moi. C'est pour vraiment qu'on puisse remettre un petit peu le RH sur le devant de la scène, avoir la position qu'il a, la position qu'il devrait avoir et comment on se sent aujourd'hui et comment il vit les évolutions. Donc je vais te poser la première question, c'est de savoir pour toi un RH en 2024 c'est quoi et quelles sont ses tâches au quotidien, parce qu'on a toujours tendance à penser quand on ne connaît pas que le RH est un recruteur, et ce qui n'est absolument pas le cas parce que un RH a beaucoup plus de tâches et beaucoup plus d'importance au sein de la structure, et surtout en 2024 avec l'évolution du marché. Donc je te laisse la parole.
C'est gentil, merci. J'ai pris mes petites notes en tant que bon RH. Je suis désolé, mais j'ai pris le petit bloc-notes, je viens de l'ouvrir. Écoutez, moi, je pense qu'il y a vraiment 4 piliers. Après, il y a peut-être plein d'autres choses, et je pense que les auditeurs me diront en commentaire ou pas, etc. Mais je pense qu'il y a le pilier effectivement administratif où on est toujours une fonction administrative sans forcément. La partie obligation légale conventionnelle, la partie business partner, la partie projet RH. Administratif parce qu'on doit établir aujourd'hui les documents et les procédures pour sécuriser les entreprises. Obligation légale conventionnelle parce qu'on doit respecter le cadre réglementaire pour éviter les déconvenues tant sur le plan social que contentieux, etc. Le côté business partner qui est ressorti depuis, on va dire, 5-10 ans, sur le côté on doit accompagner les clients internes, que ce soit la direction générale, les managers opérationnels, les collaborateurs, les accompagner au mieux, développer les compétences, etc. etc. Et puis la partie, je pense, aussi projet RH, puisqu'on doit être un leader sur certains projets RH qui nous sont dans le scope et on a à cœur. La diversité, l'inclusion, le handicap, la QVCT, le bien-être au travail. Et puis la digitalisation de nos propres process RH paye, comme la GTA, la paye, la communication interne, etc. Parce que c'est important aussi de faire des projets pour notre service parce que on développe nos propres outils aussi en interne pour développer autant d'efficacité, être efficient, etc. etc.
Et du coup, par rapport à ce que tu dis, je vais te poser deux questions. La première, c'est, tu n'as pas du tout parlé de recrutement. Aujourd'hui, pour toi, un RH, alors je pense dans une petite boîte, un RH en fait aussi, mais le poste de RH en tant que tel, pour toi aujourd'hui, est-ce qu'il est corrélé au recrutement ou est-ce que c'est vraiment deux postes qui sont à part, qui font partie d'un service global? Tu le vois comment en fait? Parce que c'est quand même une grosse discussion, il y a quand même deux écoles sur le sujet, donc je veux bien avoir ton avis.
C'est un peu l'éternel débat, malheureusement, du coup. Je pense qu'après, voilà, il peut avoir plusieurs options, on va dire, que soit le recrutement est décorrélé de la partie ressources humaines, et du coup, c'est une fonction à part, et du coup, ça serait rattaché directement à la direction générale, comme la direction des ressources humaines, ou alors, du coup, le service recrutement est imbriqué dans le service RH. C'est un éternel débat, j'ai pas envie de forcément prendre position parce qu'en fait il y a à boire et à manger dans les deux débats. Bon là je fais un peu le RH politique.
C'est ça, normalement on a dit no bullshit, on a dit que tu prenais position, c'est parti, il faut se mouiller.
En fait c'est compliqué. Alors moi pour l'avoir vécu, clairement au niveau recrutement, moi j'ai toujours vécu dans la fonction RH imbriquée dedans. C'est-à-dire que pourquoi j'ai peut-être pas parlé de la partie recrutement, parce que j'ai pas parlé de la partie recrutement comme la partie disciplinaire, comme la partie formation. Effectivement, RH, c'est tous les volets, bien évidemment, que j'ai pas cités. Pourquoi? Moi, je l'avais un peu réparti dans les quatre rubriques que je t'avais indiquées pour essayer de faire un truc un peu global. Mais le recrutement, effectivement, moi, je l'ai vécu toujours. En fait, c'était dans nos missions, entre guillemets, quand j'étais chargé RH généraliste, j'avais la partie de A à Z, de l'onboarding à l'offboarding, plus la partie recrutement, plus les projets RH, etc. etc. Et puis après, on peut avoir aussi des projets RH qui sont aussi projets recrutement, notamment quand il y a des cadres, enfin des appels d'offres, des sociétés, votre société remporte des appels d'offres, on doit intégrer, je ne sais pas, 30, 50, 300 personnes. Moi, c'est ce que j'avais eu pour une expérience où j'avais dû recruter avec ma collègue 300 personnes sur l'ensemble de la France pour des CDI de chantier parce qu'on avait un marché hyper connu, etc. Des petits boîtiers verts, pour ne citer que les petits boîtiers verts intelligents, électriques, voilà. Donc voilà, c'était un projet recrutement. Et puis après, on avait dû aussi contractualiser, sécuriser la partie contractuelle avec en mettant des CDI de chantier, avec que ce soit des chantiers de 3 à 6 ans, parce que si ce chantier-là et cet appel d'offres-là se terminaient, forcément, il fallait qu'on sécurise l'entreprise et il fallait qu'on mette des CDI de chantier pour que les personnes finissent leur CDI, entre guillemets, comme un CDD avec des indemnités, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à toute ta question.
Si, alors tu as répondu à la première, mais surtout je vais te poser la deuxième, parce que la première, on pourrait y rester pendant des heures. C'est un débat sans fin, ça en fait partie, ça en fait pas partie.
C'est ça.
Pour moi, le recrutement fait partie pleinement des RH, parce que c'est la base, en fait. C'est la base de l'entrée des collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc, qui dit base de l'entrée des collaborateurs au sein de l'entreprise dit que forcément, tu les rentres dans l'aventure. Donc, forcément, t'es la première pierre.
Onboarding, voilà. Avec,
forcément, ça vient avec, tu vois, c'est logique. Alors, bien évidemment, les RH ne sont pas obligatoirement obligés de tous faire du recrutement. Les recruteurs ne font pas forcément de RH. Les deux ne sont pas forcément imbriqués de la même manière en fonction de la taille des entreprises. Mais pour moi, enfin, ça en fait partie, même si un RH n'est pas obligatoirement un recruteur. Mais du coup, j'avais une deuxième question qui n'était pas prévue. C'est est-ce que tu trouves que les RH sont, toi quand tu l'as été, est-ce que tu trouves que vous êtes suffisamment formé justement à toutes ces demandes? Parce que là, tu as quand même montré des champs de compétences qui sont ultra divers, ultra variés. Si tu prends le droit qui fait ultra plaisir, j'aime bien la mentionner à chaque fois, qui fait ultra plaisir à Florence Bernier de Babi, tu vois, c'est quelque chose que je trouve qu'on apprend bien aujourd'hui dans les cours RH, dans les écoles RH, tu vois, on l'apprend bien. Mais est-ce qu'on t'apprend en fait tous ces champs-là?
En fait, au niveau de l'apprentissage, pour moi, ça se fait sur le terrain, par expérience. En fait, j'ai eu la chance d'être dans des expériences hyper enrichissantes. Alors, quand on dit enrichissante, en général, on dit on a lutté dans les expériences, et c'est ce qui m'est arrivé plus d'une fois, pratiquement pendant toute ma carrière. Mais je trouve que, en fait, ces expériences, on les apprend au quotidien. Et on apprend, par exemple, pour le droit social, moi, j'ai eu des sociétés où il y avait plusieurs sociétés dans la société. Donc, il faut jongler avec les conventions collectives différentes. Il faut savoir aussi accompagner au mieux les managers. Donc, après, on a aussi des outils, nous, en interne, qui nous aident beaucoup, comme des abonnements payants, tels que la revue fiduciaire, la Miline, Francis Lefebvre, etc. Je t'en ai cité trois, si jamais il y a un problème. voilà, mais après, j'avais une idée, mais je l'ai perdue parce que c'était quoi ta question de base?
C'était, est-ce que tu trouves que tu es suffisamment formé? Parce que tu as dit que tu te formais, avec de l'expérience, et je suis
exactement,
d'accord, mais est-ce qu'on te donne quand même les bases pour pouvoir justement travailler cette expérience?
C'est ça le gros problème, c'est ça aussi qu'on doit, nous, RH aussi, montrer et démontrer à la direction générale, c'est qu'on doit être formé parce qu'à chaque fois, nous, on utilise les formations et le plan de développement des compétences et les dispositifs de formation, etc. On organise avec les managers opérationnels, etc. Et on s'oublie souvent de se mettre dedans dans les formations. Mmh. Et en fait, on a besoin de se former, je pense, limite chaque année parce qu'il y a des nouvelles connaissances en droit du travail, droit social, en droit juridique, en droit, je ne sais pas, réglementaire, économique, etc. Sur la partie CSE, il y a tout le temps des nouvelles dispositions qui viennent à chaque fois. Et puis les gouvernements ne nous aident pas trop non plus. C'est qu'à chaque fois, à chaque gouvernement et à chaque gouvernance différente, on a des évolutions, etc. à chaque fois sociales, juridiques, tout ça. Et donc, on doit se former et à chaque fois, on s'oublie soi-même et on s'oublie les premiers à rentrer dans ce plan et à oser demander à la direction générale de se dire bon bah nous aussi on aimerait bien telle et telle formation, etc.
Mais du coup tu parles de se former tout le temps et je le comprends hein, tu vois, t'as donné plein d'exemples qui sont hyper nécessaires et ça fait partie, tu vois, on en parlait la semaine dernière avec Hélène Lee, ça fait partie de toute la culture RH à avoir pour pouvoir se former constamment, pour pouvoir avancer elle plus au niveau du recrutement, mais ça c'est le cas. Mais j'insiste, est-ce que tu penses que les écoles aujourd'hui vous donnent suffisamment de base ou tout du moins suffisamment de réflexion pour pouvoir y arriver? Parce que tu dis qu'il ne faut pas s'oublier, mais quand tu arrives sur le marché du travail, quand tu es arrivé, certes tu te fais ton expérience, mais est-ce que...
Est-ce que tu as assez de bagages, c'est ça, quand tu arrives?
Je sais pas, parce que c'est aussi le jeu de l'expérience, tu vois, ça fait partie du truc. Mais est-ce qu'on t'a suffisamment ouvert l'esprit pour que tu sois prêt à répondre à toutes ces demandes?
Alors, c'est un peu un sujet d'un poste prochain. Ah, je pense que je ne vais pas me faire des amis. C'est-à-dire que, grosso modo, je trouve que... Alors déjà, il y a plusieurs sujets dans les sujets. Enfin, c'est ma réflexion ici. C'est-à-dire que des fois, les écoles vendent un peu le truc en mode vous pouvez, quand vous allez sortir de l'école, vous serez RRH, DRH, etc. Pour moi, non, parce qu'on n'a pas assez de bagages, que ce soit au niveau expérience, mais aussi... forcément, du coup, compétences, etc. Et on pense nous donner les bagages nécessaires, sauf que c'est pas assez, c'est pas suffisant. On n'a pas assez pratiqué. Et clairement, aujourd'hui, il y a beaucoup de trop de théories. C'est le deuxième sous-sujet que je voulais aller dessus. C'est que il y a assez trop de théories. On va trop en surface. On va pas assez en profondeur dans les blocs de compétences, grosso modo. Et je trouve que c'est dommage. Et c'est surtout aussi, ça c'est un troisième sous-sujet, c'est les intervenants qui sont très publics, fonction publique, qui n'ont pas forcément pratiqué leur théorie, ce qu'ils enseignent aux étudiants. Et en fait, c'est un peu dommage parce que du coup, les étudiants ont des mauvais repères, arrivent sur le marché avec des mauvais repères, pas forcément les bons outils, etc. Et des professeurs qui n'ont pas assez de pratique et qui enseignent de la surface. Et voilà. Donc, pour moi, on n'a pas assez d'armes pour devenir DRH ou RRH dès qu'on sort de l'école après.
Tu as des armes pour te former. C'est déjà ça. Tu as des armes pour te former, pour déjà former ton expérience et rentrer dans le monde. Mais d'ailleurs ça rejaillit sur l'autre question que je voulais te poser, qui est que comment tu as vu le métier évoluer, toi, sur ces 10 dernières années? Parce que ça fait plus de 10 ans, justement, que tu fais ce métier-là. Et comment tu l'as vu évoluer? On a l'impression qu'il évolue à une vitesse de ouf, mais vraiment, surtout là, depuis 5-10 ans. Et toi, comment tu l'as vu évoluer? Et au-delà du fait de comment tu l'as vu, c'est quoi les évolutions majeures que tu as vues arriver sur ton métier ces 5-10 dernières années?
Ne serait-ce que par les évolutions des technologies, hein, clairement, au niveau des ATS. Moi, j'ai pu le pratiquer, j'ai mis en place des choses dans les sociétés par rapport à la digitalisation de la GTA, la gestion des temps et des activités. Par exemple, dans une société, ils étaient encore à la feuille papier, à la mano pour poser des congés payés. Chacun n'avait même pas son portail interne RH. Enfin voilà, on était vraiment old school à l'ancienne. Et je trouve que l'évolution des technologies sur pas mal de logiciels, pas mal d'ATS. D'ailleurs, j'étais récemment au salon HR Technology et j'ai vu pas mal de sociétés, enfin donc dont j'ai pratiqué. Donc je trouve que c'est beau de les voir aussi évoluer de leur côté, de se dire bon ben voilà, ils ont une grosse part sur le marché maintenant. Et je les ai vus tout petits à l'époque, donc c'était drôle, quoi. Et donc, beaucoup de tâches administratives simplifiées grâce aux ATS, ou alors des tâches externalisées avec des prestats, etc. Ça peut se faire aussi, ou des CPS, je ne sais pas, en Inde ou machin. Alors, je sais qu'il y a des sociétés qui le font, d'externaliser cette partie-là sur la fonction RH des choses, des questions RH ou des trucs comme ça. Après, je trouve aussi au niveau de la prise de parole, donc ça c'est le deuxième point, la prise de parole plus libérée, je trouve, et plus régulièrement, de manière plus régulière sur tout au long de l'année, je trouve qu'aujourd'hui, LinkedIn, hein, on le sait, on adore LinkedIn tous les deux, c'est notre bébé phare, mais c'est vrai que LinkedIn a beaucoup fait évoluer les mentalités, a beaucoup aidé. Les RH, des RH, etc. Les event RH aussi aident beaucoup. Et moi, du coup, c'est un autre sujet de post LinkedIn que je n'ai pas fait, mais je vais t'en parler. Et je trouve que par rapport à la prise de parole, on invite principalement les DRH, les DG, les PDG. Et je trouve que ça serait bien, des fois, sur des event RH, d'entendre des chargés RH, des assistants RH, des chargés de recrutement, des responsables recrutement, enfin voilà. Même des gestionnaires de paye. Les gestionnaires de paye ont plein de trucs à dire intéressants. Et je trouve que dans les event RH, ou même dans les conférences, même dans les HR Technology, il y a toujours les mêmes têtes que je revois dans tous les events, les DRH et les DG, etc. J'ai pas dit qu'on en a marre parce que voilà, ils sont sympas, ils disent des choses intéressantes.
Mais on voit toujours les mêmes.
À un moment donné, non, mais voilà, c'est tout le temps les mêmes. Et à un moment donné, je trouve qu'il y a. On aimerait bien avoir des prises de parole de gestionnaires de paye qui ont des gros scopes de 5-10 000 collaborateurs, des responsables paye, etc. Et ils ont plein de trucs à dire, même des responsables relations sociales ou des chargés de recrutement qui ont eu des super projets. Et en fait, entendre la voix, en fait, finalement, des petites mains qui aident aussi à l'évolution des DRH, finalement, et puis à l'évolution de la société. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, je trouve que la COVID 2019 a beaucoup fait aider à prendre conscience aux certaines directions générales, ce que je dirais peut-être pas toutes, mais qu'on était là, même quand le bateau coulait, et qu'on n'était pas que des grains de papier. Quoi.
C'est ouf.
Parce que bon, j'ai fait un post là-dessus. Sur le... D'ailleurs, tu m'as aidé.
La fameuse photo du... Oui, tout à fait.
Merci
tout
à ton chance. Au passage, sur la fois, moi, RH, où j'ai repris le gimmick de François Hollande. En fait, effectivement, on n'est pas que des grains de papier et on a été là, comme je parle dans la fonction RH dans sa globalité, que ça soit avec la partie recrutement, formation, paye, etc. La partie paye a été un rouage de dingue et a aidé beaucoup, beaucoup les RH aussi parce que ils étaient les premiers impactés comme nous sur la partie activité partielle. La plupart, on va dire, à 80-90%, c'est mes propres stats hein, perso, je tends d'un truc. Alors, on n'avait jamais géré l'activité partielle, à part dans le bâtiment du premier œuvre, etc., où il y a des ou dans le, je sais pas, ou l'événementiel ou autre, ou dans certains secteurs d'activité qui avaient déjà utilisé ça, mais pratiquement 80% des boîtes n'avaient jamais utilisé l'activité partielle. Donc ça, il fallait le mettre en place, en paye, en RH, etc., etc. Et donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, je dirais que certaines...
Quatrième point.
C'est exactement.
Ah non, j'adore. J'adore, je suis complètement en fait. Bref.
Certaines directions générales prennent véritablement conscience que la fonction RH est clé dans l'entreprise et que c'est une fonction stratégique. Donc, si on recrute, par exemple, pour parler de recrutement tout à l'heure, si on recrute les bons talents au bon moment, ton entreprise, bah, clairement, elle peut décoller. Si tu n'arrives pas, à contrario, à fidéliser tes collaborateurs et que tu ne mets rien en place, bah, tes bons talents, ils partiront à la concurrence. Enfin, ça, c'est schématique, oui, je t'ai pris un truc, un exemple hyper simple, mais ça, on peut le dupliquer sur plein d'autres exemples. Voilà, ça, c'est ma réponse en
quatre points. mais c'est bien parce qu'en fait, ta fin de réponse rebondit sur la dernière question que je veux te poser. Mais avant, je vais quand même te poser une autre question du coup. C'est plutôt de te dire, là, tu m'as parlé un peu de la fonction, de la relation que tu avais dans l'entreprise, des attentes. Et est-ce que tu as vu une évolution du côté, d'ailleurs c'est une question sous-entendue parce que je me doute de ce que tu vas répondre, mais est-ce que tu as vu une évolution aussi du côté des collaborateurs et de la relation que tu pouvais avoir avec les collaborateurs et ou les candidats? Parce que c'est souvent ça en fait qu'on pointe du doigt, mais on le pointe du doigt plus encore une fois sous l'angle du recrutement ou sur l'angle des chefs d'entreprise que sous l'angle du RH. On voit, j'ai vu une étude il n'y a pas longtemps, j'arrive pas à ressortir le chiffre, il faut que je le ressorte. Je crois que c'est 52% des collaborateurs qui pensent que les RH en fait ne s'occupent pas d'eux. Et à contrario, ils pensent pratiquement tous que ceux qui s'occupent vraiment des ressources humaines et d'eux, c'est à 75% les managers, tu vois, et pas les RH. On a l'impression en fait qu'il y a une sorte de décorrélation, une distanciation qui se fait entre les collaborateurs et les RH, qui est absolument fausse parce que les RH ont peut-être jamais été aussi proches des collaborateurs qu'aujourd'hui. Mais tu vois, une perception en fait qu'il y a que j'ai un petit peu du mal à voir. Et comment toi tu la ressens et comment toi tu as pu voir cette évolution?
Alors, pareil, je suis désolé, mais il y a plusieurs sous-sujets.
Vas-y, on est là pour ça, on est là pour parler des sous-sujets.
C'est hyper riche, notre
podcast. On est là pour parler des sous-sujets.
Sans prétention aucune, ça va être hyper riche. Non, mais en fait, déjà, le taux d'exigence des collaborateurs dans la globalité a beaucoup, beaucoup augmenté. Les gens, en fait, deviennent de plus en plus exigeants parce que je pense qu'au niveau de la sphère personnelle, tout va très vite. Les plateformes de streaming, il n'y en avait pas avant, on était obligé, exemple tout bête, mais c'est un hors sujet que je te fais, mais il y a quand même un lien, on était obligé, rappelle-toi à l'époque, d'attendre les épisodes de séries, un épisode par semaine. Maintenant, tout le monde a toute la saison d'un coup, voire des fois 2-3 saisons, etc. Donc ça, déjà, au niveau, tout va très vite, les gens sont habitués dans la sphère privée à ce que ça aille très vite. Et donc, ils veulent ce taux d'exigence, ce taux d'efficacité efficient, etc. La même chose dans l'entreprise. Ce qu'il faut aussi se dire, donc ça, c'est le deuxième sous-sujet, souvent, la fonction RH, on n'est pas assez outillé, on n'a pas assez, donc que ce soit humain ou matériel, on n'a pas assez de personnes, de collaborateurs pour gérer la partie ressources humaines. Et ça, c'est le deuxième problème. Et ça, bien sûr, les collaborateurs, forcément, ne le savent pas, peut-être pas en interne. Mais du coup, si on veut faire bien les choses, par rapport à tout ce qu'on a à faire au quotidien, plus les choses qui se rajoutent, etc., plus les priorités, plus les enjeux stratégiques, opérationnels, enjeux business, blablabla, ben, des fois, on ne peut pas faire de la qualité. On est obligé de faire de la quantité, abattre un taf, entre guillemets, et en fait... C'est le troisième un peu sous-sujet, c'est qu'on est un peu un rôle tout le temps de pompier, on éteint des feux alors qu'on devrait être là en amont, anticiper, etc. Et après aussi, quand je disais pas assez outillé aussi en termes, on en a parlé tout à l'heure, ATS, etc. Malheureusement, du coup, c'est dommage, la direction générale ne mise pas assez sur la fonction RH. Ils se disent, bon, ouais, c'est une fonction admin. On va pas investir dans cette partie-là, on va pas investir dans un ATS recrutement, on va pas investir dans un ATS de gestion des carrières, de paye, de logiciel de paye, etc. On va prendre un truc pas cher, machin. Mais en fait, si on veut faire un travail qualitatif, que le taux d'engagement de satisfaction des collaborateurs, il y a aussi l'INPS qui est dans certaines startups ou certaines boîtes qui mettent bien en exergue ça. En fait, tous ces outils-là servent aussi à nous aider et à nous dégager du temps au quotidien sur des tâches clairement chronophages qui nous font perdre énormément de temps. Et puis après, j'avais un autre sous-sujet, mais je ne me rappelle plus.
C'est pas grave, il va revenir. Mais pour toi, vraiment, les collaborateurs ont des exigences aujourd'hui qui sont beaucoup plus importantes qu'avant. C'est une bonne chose, et ça, c'est une bonne chose, je trouve. Mais voilà.
C'est une très bonne chose. C'est hyper bien. Mais après, c'est ça. L'autre sous-sujet que je voulais revenir, c'est que tu disais que effectivement, c'est les managers qui Mais en fait, moi, pour rappel, c'est la fonction RH, c'est une fonction de support. On est au service de. Donc, on est au service de la direction générale, des collaborateurs, mais des managers aussi. Et c'est les managers opérationnels qui ont le rôle premier de relais RH pour nous aider à mettre en place tout ça et à nous aider au quotidien sur la partie RH. Si on n'a pas ces partnering RH, je ne sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est ça le terme, en fait, s'ils ne sont pas là pour nous aider au quotidien, c'est pareil.
Donc, tu as l'impression que les collaborateurs aujourd'hui en demandent peut-être trop aux RH parce qu'ils ne connaissent pas réellement leur domaine de leurs prérogatives en fait, particulières et leur champ d'application.
Oui, alors ça, c'est aussi, il y a aussi un gros, gros défaut de communication sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, tu vas dans la rue, à 80% des gens, on embauche, on licencie. Ok, mais entre, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est ça un peu le problème. Et je ne sais plus, j'avais une pensée, mais elle est partie d'un coup. C'est compliqué.
C'est pas grave, on y reviendra. Et donc, du coup, on va passer à la prochaine question. Aujourd'hui, pour toi, la place du RH, elle est comment ? Et comment elle est et comment elle devrait être au sein de l'entreprise ? Parce qu'on parle souvent des entreprises qui se développent, on parle beaucoup de remettre l'humain au centre. Il y a beaucoup de bullshit autour de ça, il faut être honnête, sur le côté remettre l'humain au centre. Perso, j'y pense vraiment sincèrement. C'est-à-dire que je suis profondément persuadé que l'humain est la base de l'entreprise et que le RH, pour moi, est la pierre angulaire. Les chefs d'entreprise ont tendance... Alors, j'ai l'impression que ça change, mais c'est là où je vais te demander ton avis. Les chefs d'entreprise ont pour moi encore trop tendance à penser que leur entreprise fonctionne sur un système de bilan. C'est-à-dire que j'ai des lignes de dépenses, ça fonctionne comme ça, c'est comme ça, hop, mon bilan, il est là, boum, 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 c'est fait, terminé, on n'en parle plus. Ils ont trop tendance à penser, en fait, que l'entreprise est un petit peu au-dessus de tout. Le produit est au-dessus de tout. La marque est au-dessus de tout. Et je tends à penser que ce système-là, en fait, n'est vrai que pour que très peu d'entreprises dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'entreprises dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir une marque supérieure au reste et qui pourrait tourner quelles que soient entre guillemets les personnes à l'intérieur, d'avoir un produit révolutionnaire qui pourrait tourner quelles que soient les personnes à l'intérieur. Et pour moi, ce qui fait la force d'une entreprise, c'est les gens qui constituent cette entreprise. C'est les commerciaux, c'est les relations clients, c'est toute la synergie que tu vas avoir à l'intérieur qui va faire que ton entreprise va se développer. Donc pour moi, l'humain au centre, ça me semble tellement logique et tellement basique que c'est naturel et que des fois j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle quand je vois certaines actions des autres. Et donc pour toi aujourd'hui, est-ce que cette place là du RH qui du coup en tant que responsable des ressources humaines devrait être justement la pierre angulaire de la boîte, et est-ce que c'est le cas aujourd'hui, est-ce que c'est pas le cas, est-ce qu'elle est en train de l'apprendre, comment tu ressens un peu les choses?
Alors, pour un peu répondre à ta question sur le fait que l'humain au centre, etc., je trouve que effectivement, t'as raison et on le voit en fait et on l'a vu dans certaines grèves. En fait, clairement, l'humain est important et l'humain peut stopper ton activité économique quand t'es dans une activité industrielle de production, etc. Si tes salariés font grève et que ça te bloque totalement ton activité, il faut réfléchir et l'humain au centre, pareil, j'ai travaillé dans le secteur de la santé récemment, quand tu as une grève et que tout bloque et que tu peux même perdre des praticiens au passage et que l'activité économique s'en ressent énormément, il faut penser humain et il faut penser aussi stratégie. Donc, alors, moi, je l'ai répondu en cinq petits points.
Vas-y, fais-moi tes cinq points, vas-y.
Plus ça va, plus j'augmente des points.
Du moment que tu n'as pas 5 points, 5 sous-sujets par point, ça me va, il n'y a pas de souci.
Ça va faire 3 heures, les gens vont en avoir trop marre, ils vont stopper tout. Alors moi, je trouve que là, la place, donc c'est fonction stratégique pour moi, fonction opérationnelle, fonction administrative, fonction leader et fonction support. Fonction stratégique, bah on l'a expliqué hein, tout au long du podcast parce que c'est hyper stratégique et si les directions générales nous donnent les moyens humains, matériels, etc. Et on a pas mal de choses à faire sur la partie stratégie, sur la partie recrutement, sur la partie onboarding, sur la partie, tu disais JPEG tout à l'heure qui a changé de nom, j'ai du mal maintenant avec les nouveaux noms, sur la partie QVCT, etc., etc. C'est stratégique et aussi c'est une fonction clé et c'est une fonction qui peut faire avancer encore plus la croissance de la boîte, etc. Fonction opérationnelle, forcément, on est une fonction terrain et je trouve qu'on est beaucoup décrié par les collaborateurs et aussi quand tu vas dans la rue, tu poses la question à 80% des gens, les 80% des gens vont te dire qu'on n'est pas assez terrain, on est trop dans notre... tour de verre, etc. On va pas aller au on n'est pas assez proche des équipes, on connaît pas ce qu'ils font. En fait, faut vraiment, c'est un peu comme je t'ai redit tout à l'heure, c'est business partner au début, c'est-à-dire de connaître bien l'activité de la société, mais aussi les sous-activités, ce que fait chaque département dans chaque service, etc. Fonction administrative, forcément, comme je t'ai dit au début, c'est pour sécuriser tout ça et on n'a pas le choix que de faire d'administratif parce que de remplir les obligations légales conventionnelles, le cadre réglementaire, etc. On n'a pas le choix, ça fait partie de la fonction. Fonction leader, parce qu'aujourd'hui, on doit être plus écouté, on doit être plus entendu par les directions générales et clairement, moi, je suis halluciné qu'on soit parfois pas membre du CODIR ou du COMIX.
Je suis d'accord avec toi, c'est hallucinant.
Hallucinant. On est toujours les derniers roues du carrosse, les plus mal chaussés, mais dans tout point, quoi. C'est horrible. Et donc, fonction de support, comme je te l'avais rappelé tout à l'heure, c'est que pour moi, on est au service de les managers. On les accompagne, mais on ne fait pas à la place d'eux. Et ça, en fait, il y a beaucoup aussi de RH qui ont du mal à cerner les limites. Et ce n'est pas évident à faire parce que, clairement, moi aussi, j'ai réussi des fois à me faire bouffer dans certaines situations. Et en fait, après, ça nous retombe en boomerang et ça nous revient en pleine figure parce que, le RH m'a dit ça. Ouais, mais du coup, à la base, c'est pas à moi de faire. Je t'ai aidé quand même à faire ce truc-là et tu me le revois. Non, ça va pas le faire. Mais non, mais du coup, voilà, on est un service support et on aide les opérationnels, mais on fait pas à la place de. Et en fait, donc ça, c'est aussi important.
Mais tu vois, tu l'as dit un petit peu de manière sous-jacente. Est-ce que tu penses que cette place centrale, parce que du coup, c'est une place centrale, c'est vraiment. Encore une fois, je reviens dessus, mais pour moi, vous êtes la pierre angulaire d'une boîte, quoi. Si une boîte va bien, c'est parce que ses RH vont bien.
Toi, ça, tu penses.
Ah voilà, donc c'est la question. C'est la question.
C'est bien. Mais ça, c'est une belle vision de CEO, nouvelle génération, on va dire, entre guillemets, si je peux me permettre.
Non, mais c'est ça. Non, mais t'allais y répondre. C'est exactement ça. Est-ce que pour toi, en fait, c'est le cas aujourd'hui ou est-ce que c'est en train d'évoluer dans ce sens-là, en fait? C'est ça ma question.
C'est en train d'évoluer. Je le vois sur LinkedIn, sur plein de posts. Dès que les posts sont intéressants, je m'abonne aux personnes, etc. Et je suis abonné à pas mal de CEO et qui essayent qu'on ait une vision un peu plus stratégique, un peu plus positive des RH, etc. Mais ça évolue dans un sens positif. On va pas se mentir. Depuis, on va dire 13 ans que je fais ce métier-là, c'est de manière très, très positive. Mais il y a encore du chemin à faire. En fait, je pense qu'aujourd'hui, je l'avais dit en rigolant, mais je le prends plutôt sérieusement, j'avais dit à une pote RH, en fait, on devrait avoir, tu sais, avant la météo de TF1 ou France 2, un espèce de petit truc RH, tu vois, en mode, les RH, ils font ci, ils font ça, etc. Parce qu'en fait, on reste les plus mal aimés, comme les banquiers, en fait. C'est horrible de se dire que en fait, on est là pour les collaborateurs, on est là pour les managers, on est là pour les directions générales. On est vus comme des démons, comme des personnes qu'il faut abattre. Alors, effectivement, aussi, je défends la fonction, mais aussi, je tire aussi un peu à balles réelles parce que beaucoup de professionnels RH, de pairs RH, font pas leur job comme ils devraient faire. Et ça fait très mal aussi à la fonction, et ils font mal leur métier. Donc effectivement, il y a des bons et des moins bons partout dans chaque fonction, forcément. Mais à croire les gens qui quand tu les écoutes, il y a beaucoup moins de bons RH que de bons. Enfin, voilà. Donc c'est ça aussi qui est compliqué, c'est-à-dire que moi je le vois dans les commentaires, dans les posts RH que je fais. Des fois, je tombe des nues parce que je me dis, mais en fait, les gens ont vécu des situations hyper, hyper compliquées avec des professionnels RH qui n'auraient jamais dû se comporter comme ça. Là, je ne t'ai pas parlé aussi de l'exemplarité. On a aussi une fonction d'exemplarité sur tous les aspects. On doit être exemplaire partout, tout le temps, à chaque fois. Alors, ça demande beaucoup d'énergie, c'est sûr. Mais c'est comme la direction générale et les managers, on doit être exemplaire tout le temps sur chaque mot qu'on va dire. Et l'importance des mots, c'est hyper important parce que un mot peut être interprété d'une manière ou d'une autre, peut emmener une rumeur, etc. Si on communique pas bien, tout ça, blablabla. Enfin voilà.
Mais je vais pas étudier là-dessus. Tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que. Tu m'as fait voir là dans ton discours quelque chose que j'avais pas forcément perçu ou que je voulais pas voir. C'est qu'on parle très souvent du fait que les chefs d'entreprise doivent changer de mentalité, doivent faire avancer, on veut remettre l'humain au centre, on veut tout ça. On dit que machin. Mais ce que tu dis, ce qui est vrai en plus, parce qu'on le voit sur plein d'études différentes et sur plein de sujets différents, sur le recrutement, combien de candidats se plaignent de ne jamais recevoir de réponse à leur candidature ? Scandaleux.
Alors, scandaleux, tu vois, c'est là où ça remonte au sujet où je t'avais dit. Est-ce que, point d'interrogation,
sont équipés.
Est-ce que le service recrutement est assez staffé humainement et avec les bons outils?
Non, mais je suis complètement d'accord avec toi.
Voilà.
Mais après, tu regardes, alors là, tu vois, sur cet exemple-là, je suis d'accord avec toi. Tu prends un autre exemple. J'ai sorti il n'y a pas longtemps le baromètre social, parce que j'ai lu le baromètre de la perception des personnes en situation de handicap de la GFIP. Il y a 7% des salariés qui savent que 80% des handicaps sont invisibles. Je trouve que la stat est hallucinante, parce que ça veut dire que personne ne sait rien sur le handicap. Mais il n'y a que 11% des RH qui savent que 80% des handicaps sont invisibles. Ça, je trouve ça hallucinant. Comment tu veux travailler des politiques de discrimination, des politiques d'inclusion, quand tu n'es même pas informé du sujet? Mais ça revient aussi, comme tu le disais tout à l'heure, de manière sous-jacente, à est-ce qu'ils ont le temps de s'informer sur ces sujets-là. Donc ça me fait percevoir, en fait, l'idée, ton discours et tout est hyper intéressant, parce que ça me fait...
Alors, moi les études, quand même, je mets un bémol et un holà quand même, parce que tous mes pairs RH, on parle d'handicap, on sait pertinemment que 80% des handicaps sont invisibles, etc. Après, la GFIP fait un bon taf, etc., il n'y a pas de souci. Je ne remets pas en cause leur étude, mais j'aimerais bien voir l'échantillon qu'ils ont pris, les questions, etc. Parce que après, je défends ma fonction. J'ai un peu l'avocat du diable. Hein.
Mais t'as entièrement raison.
Je trouve que, par expérience, quand j'ai fait plein d'afterwork RH, j'ai fait plein d'event RH, etc., on parle entre RH avant, après l'événement, etc. Ce que tu me dis là, c'est pas représentatif de la réalité.
C'est pas représentatif de ton écosystème, tu vois.
Le mot écosystème.
Oui, mais donc du coup ouais, après, je veux bien, je suis d'accord avec toi, hein, tout est en fonction de l'échantillon. Mais si tu préfères, quoi qu'il se passe, j'ai envie de te dire, même si on parle de 11%, qu'on parle qu'ils se sont plantés, même si c'était que 50 ou 60%, ça serait beaucoup trop peu. Et je pense que ça revient, et c'est pour ça que tu m'as fait changer mon angle d'approche sur le sujet. C'est-à-dire qu'on est sur un sujet qui est vraiment beaucoup plus global. C'est-à-dire que il faut vraiment que tout évolue ensemble pour que la perception et que le travail évoluent ensemble. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des RH qui soient conscients de leur position, il faut qu'on ait des chefs d'entreprise qui soient conscients de leur position pour pouvoir vraiment redonner toutes leurs lettres de noblesse au job en tant que tel, Parce que justement, vous n'avez pas forcément toujours le temps, toujours les compétences, les formations pour le sujet, vous n'avez pas toujours les outils pour le faire, ainsi de suite. Et donc, du coup, ça vous met dans une position, en fait, réellement de porte-à-faux sur le sujet, d'inconfort qui n'est pas bon. Mais quelque part, est-ce que tous les RH font aussi l'effort, tu vois, comme tu le disais, de pouvoir justement se sortir de cette situation-là pour pouvoir vraiment faire leur job à plein? Je pense que c'est un problème beaucoup plus global que simplement un problème de CEO ou un problème de RH. On est vraiment sur un problème de changement de mentalité globale et de changement de paradigme. Et là où je te rejoins, c'est que je pense que ça va dans un sens plutôt positif en ce moment. Et du coup, ça découle sur ma dernière question que je vais te poser, même si je n'avais pas prévu cette transition.
Ouh là là.
Pour toi, j'ai kiffé. J'ai posé pour la première fois à Hélène Lee il n'y a pas longtemps. Franchement, j'ai kiffé. Je kiffe cette question. Pour toi, le RH de 2034, ça sera quoi?
Alors forcément, la place de l'IA va forcément jouer un rôle prépondérant, je pense, dans les ATS, dans les process, dans les organisations. Donc après... Je sais pas ce que ça va être. Enfin, clairement, là, j'ai vu une bonne évolution quand même depuis 10 ans que je fais ce métier. Après, c'est pas un truc non plus, c'est pas une dinguerie entre guillemets. Enfin, tu vois, il y a pas eu un énorme truc cataclysme ou cyclisme ou cyclone. Je veux dire que cyclisme, je veux dire. Donc. Après, je pense qu'il y aura une évolution, ça c'est sûr, qui va être encore plus positive parce qu'il y avait encore une prise de conscience et des sites comme Welcome to the Jungle avec leurs vidéos, leurs interviews, pas mal de sociétés, des choses comme ça, font essayer de prendre conscience avec les articles, les conférences, des salons comme HR Technology ou d'autres salons sur la partie RH. Prennent conscience aussi des rôles, etc., à jouer et de l'évolution de la technologie et de l'évolution aussi des exigences qu'on a dit des collaborateurs, de l'humain, que l'humain est important, qu'une personne qui est dans la boîte depuis 10 ans, qui n'a pas eu d'augmentation. Moi, je l'ai vécu dans une société, le directeur régional ne voulait pas augmenter les gens. On lui a dit, mais si, tu vas les augmenter. Et du coup, là, il y a eu un ras-le-bol général. Donc, on a dû voir l'ensemble des collaborateurs. On est descendu carrément avec le DG, le DRH et moi-même. Parce que du coup, c'était ma région et je venais juste d'arriver, etc. J'étais pas très ancien. Et pour faire prendre conscience que parce qu'il y avait toute une vague de démissions, etc., et que l'humain est important et qu'il doit être aussi récompensé de manière des éloges, etc., au quotidien. C'est gratuit, des petits mails de remerciements. Des fois, les gens ne demandent pas grand-chose, entre guillemets, juste d'être reconnus dans leur travail, des mails de communication. Moi, je le disais souvent au manager. Il me disait, on a fait ça, on a fait tant plus en pourcentage de CA ou de machin ou de vente ou machin. Je dis, du coup, tu as remercié tes équipes par un petit mail et tout. Non, c'est eux, quoi. Enfin, c'est un truc, c'est tout bête. Après, effectivement, quand tu as des enveloppes budgétaires, essaye de penser à l'ensemble des collaborateurs. Si tu peux penser, après, tout dépend de la stratégie. Soit il y en a, ils vont privilégier une année. Certains collaborateurs parce qu'ils ont fait plus de choses que d'autres ou machin, etc. Ou alors on remercie l'ensemble des collaborateurs parce que chaque collaborateur a réussi dans le maillon collectif, à la réussite finalement en collectif. Donc ça ressemblera à quoi dans 10 ans, je sais pas franchement.
Mais déjà c'est cool, un peu plus d'IA, un peu plus de commentaires de considération, de reconnaissance et tout. Moi je signe. Hein.
Je pense.
Moi, je signe tout de suite. Hein. Si en plus, comme on l'a dit, les choses vont dans le positif pour recentrer, remettre le RH au centre du jeu, moi je signe tout de suite pour cette direction dans 10 ans. Hein. Ça me va très bien.
Exactement.
Merci beaucoup Benoît, c'était très très cool d'échanger avec toi. Merci, c'était toujours très sympa, ta bonne humeur, ton sourire et surtout de nous avoir remis un petit peu au centre du jeu le RH et d'avoir entendu parler quelqu'un qui bosse de ça toute la journée, parce que mine de rien, perso, je passe ma journée à expliquer ces choses-là, je passe ma journée à donner des idées sur ça ou ça, mais au final, ça n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'accompagner les RH comme toi, tu vois, dans la réflexion, mais ça n'est pas mon métier, donc c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant d'avoir des personnes comme toi qui sont vraiment au centre du jeu. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi.
Merci à nos auditeurs et auditrices qui vont
tout
nous
écouter. Tout à fait, merci. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
Merci.
Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était Le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka Le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.